Alors, bien le bonjour à tous en ce vendredi 14 octobre 2022. Bienvenue à cette dernière bénédiction matinale pour cette semaine. On va se retrouver par la suite pour notre prochaine bénédiction matinale mardi. Je vous rappelle que depuis la reprise en septembre, les bénédictions matinales ont cours du mardi au vendredi et non plus à partir du lundi. Donc, on continue notre étude sur la thématique « C'est par la foi » qu'on a entrepris il y a déjà plus de 17 jours, 17 leçons. On en est aujourd'hui à la 17e officiellement leçon, mais certaines ont été divisées en 2, 3, voire même 4 sections. Donc aujourd'hui, on va lire dans Hébreux chapitre 11, toujours les versets 29. Le verset 29, par la suite, on va lire aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 10 du verset 1 à 6. Et enfin, on va lire le passage auquel se réfèrent les deux précédents. Donc dans Exode au chapitre 14, une lecture un peu plus longue ce matin, du verset 10 à 31. Et après ça, on va passer dans l'étude à proprement dire. Alors, prions que le Seigneur nous bénisse ce matin. Merci encore une fois, Seigneur, d'être présent parmi nous et de nous accorder l'occasion d'étudier ta parole en ce début de journée. On te demande, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, notre pensée à cette parole, que celle-ci puisse trouver un terrain qui a été dûment préparé et qui a été dépourvu de toute mauvaise herbe, de toute épine, de toute roche qui viendrait prendre l'espace à ta parole, mais que celle-ci puisse s'enraciner profondément en nous, être arrosée par l'onction de ton esprit et croître jusqu'à porter un fruit qui te sera agréable dans nos vies. Alors Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis-moi aussi en ce matin, alors que je m'apprête à partager avec eux la parole que tu as placée pour nous. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je répète, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 1 Corinthiens 10, du verset 1 à 6 nous dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et maintenant, Exode 14, du verset 10 au verset 31. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et allait derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens. Et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, et la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors je reprends le verset 29 dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je répète, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, on termine aujourd'hui cet épisode sur la vie de Moïse. Un des grands hauts faits de la vie de Moïse, ça a été non seulement de sortir Israël du pays d'Égypte, donc de l'esclavage, après plus de 400 ans où ils ont passé le temps en Égypte à servir les Égyptiens comme esclaves, voici qu'ils sortent. Mais à peine sont-ils sortis, et on se rappelle hier, on a vu ce qui s'est passé pour qu'ils sortent, la célébration de la Pâque, l'ange de la mort qui va passer au-dessus du camp de l'Égypte et qui va tuer dans le camp égyptien tous les premiers mâles, tant humains qu'animaux, dans toutes les maisons où on n'avait pas aspergé du sang d'une brebis sur les linteaux et sur les pourtours d'une porte. Alors, ça vient choquer, bien entendu, Pharaon. avec sa garde rapprochée. Et pour une dernière fois, donc, ils obtempèrent devant Moïse en leur disant, ben oui, effectivement, prenez tout ce que vous avez. Prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos richesses, prenez vos possessions, prenez vos animaux, vos troupeaux et partez et ne revenez plus. Alors, ils quittent comme il avait été annoncé. Les Israélites sont déjà habillés quand ils mangent, ont le bâton à la main, les souliers aux pieds, sont vêtus pour voyager. Ils quittent précipitamment et à peine quelques heures plus tard, eh bien là, le Pharaon revient sur sa parole et se dit « Ouais, mais on vient de perdre toute la force que nous avions avec ces esclaves qui bâtissaient donc nos villes et qui travaillaient notre terre. Et là, on se retrouve sans aucun ouvrier pour faire la tâche. » Donc, ils se disent, on va rattraper Israël, on va remettre le grappin sur le peuple d'Israël et on va les ramener donc en Égypte pour qu'ils continuent à être asservis. On poursuit donc le peuple hébreu jusqu'aux limites du territoire égyptien, en bordure de la mer Rouge, entre deux collines. Une qu'on appelle Pi-Hahiroth et Baal Tsephon. C'est en fait l'embouchure du golfe de Suez, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Proche-Orient. Et ça forme un entonnoir qui est fermé par l'armée égyptienne. Si vous voulez, ça s'ouvre en large, mais la partie resserrée de l'entonnoir, c'est là où campe l'armée égyptienne. Donc Israël se retrouve devant eux avec la mer et derrière eux, qui rattrape le chemin et qui gagne du terrain sur Israël. Il y a donc Pharaon avec ses soldats, ses chars, ses chevaux qui les poursuivent. C'est un parfait endroit pour une trappe. C'est un parfait endroit pour fondre sur Israël et effectivement les encercler et les ramener en Égypte. Chose qu'on doit comprendre toutefois, c'est que c'est Dieu qui les a conduits là. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel marchait devant le camp. La Bible nous dit qu'il y avait une nuée qui était devant le camp, qui par la suite va se placer derrière le camp pour faire une scission, pour faire marquer une séparation entre le camp d'Israël et le camp d'Égypte. D'un côté, la nuée éclaire le camp d'Israël, et de l'autre côté, c'est opaque, très ténébreux, et c'est du côté donc égyptien. C'est donc Dieu, avec cette nuée, avec l'ange de l'Éternel, qui les a conduits jusqu'à cet endroit. On pourrait se demander, mais pourquoi les avoir amenés dans ce lieu qui est terrifiant pour Israël, qui amène un certain doute, voire un doute certain, dans la pensée de plusieurs, puisque nombre d'entre eux vont dire à Moïse, mais c'est ce qu'on voulait éviter, on te disait, laisse-nous en Israël, en Égypte, parce qu'on préfère mourir aux mains des Égyptiens que mourir dans le désert. Est-ce qu'il n'y avait pas des tombeaux où on aurait pu nous enterrer en Égypte? Toi, tu as préféré nous amener jusqu'au désert, et on te disait, on ne veut pas mourir dans le désert. Donc, ils sont dans un endroit qui est désagréable à leurs yeux, et pourtant, c'est Dieu qui les a conduits là. À l'occasion, le Seigneur nous amène dans des territoires qui nous sont défavorables, des territoires qu'on aime moins. Premièrement, parce que Dieu veut être la seule voie échappatoire ou la seule voie de salut. Israël a la mer devant eux, et derrière eux, il y a le camp ennemi qui fonce sur eux pour les rattraper, les achever, voire les ramener en Égypte comme esclaves. Israël ne peut rien faire. Ce ne sont pas des soldats. Ils n'ont pas d'armes. Ce ne sont pas des gens qui sont aguerris au combat. Non, ils ont été des cultivateurs, ils ont été des maçons, ils ont été des bâtisseurs, des charpentiers ou autres pendant toute leur vie. C'est des générations et des générations et des générations qui n'ont en fait jamais été des soldats, puisque depuis Abraham, puis Isaac, puis Jacob et ses fils, on n'a pas une nation en tant que telle avec une armée comme l'Égypte pouvait l'avoir. Et je vous rappelle que l'Égypte à l'époque est la puissance mondiale économiquement, puissance mondiale au niveau technologique, au niveau science, au niveau intelligence, au niveau philosophie, au niveau pensée, mais aussi au niveau militaire. Alors Israël, malgré le grand nombre de ses constituants, ne représente pas une grande force de frappe devant l'armée égyptienne. Mais Dieu les amène là pour qu'Israël ne trouve d'autre issue, d'autre source de salut que l'Éternel. Parfois, le Seigneur nous amène effectivement dans ce genre d'endroit où on ne peut plus compter sur nous-mêmes, où on ne peut plus compter sur les choses naturelles autour de nous, sur notre environnement, sur les personnes sur qui on a l'habitude de compter ou à qui on a l'habitude de se référer. Et là, on ne peut dépendre que de Dieu. C'est ce qui se passe avec Israël lorsqu'ils sortent d'Égypte et que le camp égyptien se lance à leur poursuite. Dieu les amène dans cet endroit où il ne peut être que leur seule source de salut, leur seule voie échappatoire, leur seule voie de salut. D'un autre côté, Dieu veut aussi enseigner que c'est lui qui crée les chemins tant dans le désert que dans la mer. Le peuple d'Israël avait peur du désert. On l'a lu, il préférait mourir en Égypte dans l'esclavage plutôt que de mourir libre, déshydraté, affamé dans le désert. Pourquoi avait-il peur du désert? Ben parce qu'il savait que dans le désert, il n'y a pas une voie qui est tracée, il n'y a pas un chemin qui est tracé. On peut s'y perdre et la personne qui s'y perd, assurément, a de très très fortes chances d'y mourir aussi. Mais Dieu veut leur enseigner qu'au même titre où c'est lui qui a ouvert le chemin pour sortir d'Égypte et les conduire, il a aussi la puissance pour les conduire plus loin dans le territoire, mais de surcroît à cela, pour aussi ouvrir un chemin dans un endroit totalement contraire, dans un endroit totalement défavorable, comme la mer Rouge. Dieu est capable d'ouvrir et de créer des chemins là où il n'y en a pas. Dieu veut aussi leur apprendre à abandonner toute voie humaine à son profit. Comme on l'a dit tout à l'heure, il veut, oui, leur montrer qu'il est la seule voie de salut, mais il veut aussi créer, susciter chez eux une dépendance à l'Éternel, une dépendance à Dieu. Et parfois, effectivement, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation où on ne peut compter que sur l'Éternel, lorsqu'on a expérimenté la délivrance, Israël qui va dans quelques minutes, dans quelques heures, expérimenter la délivrance de l'Éternel, alors qu'il va ouvrir la mer et puis qu'il va la refermer contre les ennemis d'Israël, ça enseigne et ça apprend aussi à Israël à dépendre de Dieu. Enfin, il veut leur enseigner que le salut ne peut venir d'ailleurs, la délivrance ne peut venir que de lui. Jusqu'à présent, Israël a dépendu de sa force commerciale, de sa force en nombre, de sa sagesse quant à construire. Ils sont restés vivants, ils n'ont pas été anéantis par les Égyptiens parce qu'ils ont eu ce que les Égyptiens n'avaient pas. Ils avaient les ressources humaines, ils avaient la capacité pour construire, ils avaient la force physique pour construire. Donc cela, leur propre force, leur a permis de rester vivants pendant ces 400 années d'esclavage. Maintenant, ils doivent apprendre à dépendre de Dieu et Dieu va leur enseigner d'où vient le salut. que ce salut ne vient pas de leur force, que le salut ne vient pas de leur stratégie humaine, que le salut ne vient pas de leur réflexion, de leur sagesse, de leur connaissance humaine, que le salut, puisque Dieu les amène dans un territoire inconnu, dans un territoire adverse, le salut, ils vont apprendre qu'il vient de l'Éternel. Alors, dans ce passage, on voit Dieu en action de deux façons. Un, en faveur d'Israël, et deux, en défaveur de l'Égypte. On voit Israël qui va, oui, prêter foi aux propos de l'Éternel, Israël qui va répondre avec foi à la demande de l'Éternel de mettre un premier pas dans l'eau et d'avancer afin que la mer se sépare. On va voir 5 points où Dieu intervient pour Israël. Puis, on va voir 6 points dans lesquels l'Égypte a fait des faux pas, dans lesquels l'Égypte a échoué dans sa tentative. Alors, premièrement, au verset 19 et 20 dans Exode 14, que je relis pour vous. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint aussi derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ici, on voit Dieu qui sépare les deux camps. Dieu se place entre son peuple et l'ennemi. Donc Dieu sépare son peuple de l'ennemi. Dieu vient mettre un obstacle infranchissable entre son peuple et l'ennemi. Son peuple et son passé d'esclave. La thématique de la séparation dans la culture juive, en hébreu notamment, dans la langue hébraïque, lorsqu'on parle de séparer, on parle en fait de sanctifier. Donc c'est séparer le peuple de Dieu des peuples ennemis, des peuples païens. Lorsque le Seigneur intervient envers nous, lorsque le Seigneur intervient aussi dans nos vies, c'est effectivement pour séparer dans nos vies ce qui le glorifie de ce qu'il désapprouve. La vie dans la foi et dire que nous avons la foi doit nous amener dans un mode de vie de sanctification. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, qui est mort, je te rappelle, pour le salut, mais aussi pour le pardon du péché, pour le paiement de la dette ou le paiement du coût du péché. Tu ne peux pas dire que tu crois à l'importance et à la véracité du sacrifice de Jésus et par la suite aller à contre-courant, aller à l'encontre de celui-ci en faisant n'importe quoi. C'est comme de dire que tu crois effectivement à la puissance salvatrice d'un sauveteur sur la plage, mais au lieu de respecter ce qu'il te demande, donc d'éviter tel secteur avec des remous, tel secteur qui est un peu trop profond, tel secteur avec un peu trop de courant, toi tu dis « non, je vais aller plonger là-bas parce que j'ai envie ». Si tu crois effectivement en Jésus-Christ qui est mort pour le salut, pour la rédemption, pour le rachat du pécheur repentant, alors par conséquent, tu vas chercher aussi à vivre une vie sanctifiée, une vie où tu permets à Dieu de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais et de marquer d'une façon tranchante l'avenir du passé. La deuxième chose, c'est toujours dans le verset 20, Dieu va éclairer son peuple. On dit que d'un côté, du côté égyptien, c'est ténébreux, cette nuée qui vient les séparer le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Côté égyptien, c'est opaque, c'est ténébreux. côté israélite, c'est lumineux. On nous dit que ça vient éclairer la nuit. Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut éclairer notre sentier. Il le fait de différentes manières. Il le fait à travers sa parole. Il le fait à travers notre apprentissage de ses préceptes. Il le fait avec le logos, qui est la parole écrite. Il le fait avec le rhéma, qui est la parole inspirée, spontanée de Dieu. Dieu veut se révéler à nous. On croit parfois que parce qu'on a un certain âge, on connaît Dieu. Ou parce qu'on a un certain vécu, on connaît Dieu. Assurément, l'expérience n'est pas un défaut dans la vie. Mais ce qui nous permet de connaître Dieu, c'est lorsque Dieu se révèle à nous, que ce soit par des enseignements, que ce soit par la prédication de la parole, que ce soit par l'expérimentation de la grâce de Christ et de la vie aux côtés de Christ. Chose certaine, Dieu veut se révéler à son peuple. Ici, il sépare l'Égypte d'Israël, il marque une coupure tranchante entre les deux camps, et de surcroît cela, il se révèle à son peuple. Il éclaire son peuple même dans la nuit. Le verset 21 nous dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Dieu souffle sur la mer. Ici, Dieu contrôle les circonstances et rend visible la manifestation de sa puissance. Lorsque Dieu intervient pour son peuple à ce moment-là, il s'est manifesté à travers les différentes plaies qui sont tombées sur le camp des Égyptiens, mais Israël ne l'a pas encore vu intervenir en sa faveur. C'est une toute première fois où l'action de l'Éternel n'est pas contre les Égyptiens, mais en faveur des Israélites. Alors ici, ils expérimentent effectivement le fait que Dieu est capable de contrôler les circonstances. Ils se lèvent devant le camp d'Israël, une mer agitée, une mer infranchissable parce que trop profonde, surtout pour un camp avec des centaines de milliers de personnes qui sont en train de voyager de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et Dieu, dans les premières heures, dans les premiers jours, va montrer qu'il contrôle les circonstances. Alors, dans ta vie, Dieu veut aussi contrôler les circonstances. Même quand la mer se présente devant toi, même lorsqu'il semble que c'est un chemin sans issue, aie confiance que Dieu dépasse la norme de tout ce qui est spirituel, mais il est aussi capable d'intervenir dans la vie pratico-pratique de ton environnement et de tes circonstances, et qu'il veut rendre pour toi aussi, comme il l'a fait pour Israël, il veut rendre visible la manifestation de sa puissance. Puis, il va séparer les eaux. Donc, le vent souffle pendant toute la nuit et les eaux se séparent. Et se séparent jusqu'à former deux remparts, deux murailles. Une à droite et l'autre à gauche du chemin dans lequel Israël doit passer. Dieu ne va pas leur dire, ben voilà, vous devez à tout prix passer par là. Il devient très clair à Israël que le chemin s'est ouvert et que le chemin dans lequel ils doivent passer est donc à ce moment, devant eux, entre les deux parois d'eau qui se sont figées à droite et à gauche. Dieu sépare les eaux pour conduire son peuple. Et Dieu veut nous conduire à nous aussi. Voilà pourquoi en tant que chrétien, tu ne peux pas mener ta vie n'importe comment. Tu dois aussi demander le conseil de Dieu, les décisions pour ta journée, les décisions pour ta carrière, les décisions pour ta vie doivent être présentées à Dieu et tu dois obtenir de Dieu réponse, instruction. Et Dieu, oui, assurément, veut te conduire. Parfois, il va parler. Parfois, il va faire parler les circonstances. Et dans le cas d'Israël, il a effectivement ouvert l'environnement, il est intervenu dans les circonstances, dans le contexte environnant, sans qu'il ait à mentionner quoi que ce soit, et Israël savait par où passer. Dieu conduit son peuple. La Bible nous dit dans le verset 22, et je le reprends pour vous, « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Imaginez un peu, ils sont des centaines de milliers. On calcule qu'ils étaient autour de 300 000 personnes à sortir d'Égypte. Quand vous marchez sur un terrain qui a été humide pendant un certain temps, vous marchez, une seule personne ne laisse pas trop de marques. Mais lorsqu'une dizaine de personnes marchent sur un terrain qui a été arrosé énormément, ben, il y a de la boue. Si vous rajoutez à la dizaine des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, ben, assurément, il va y avoir une espèce de boue qui va se former et qui sera dangereuse. Une espèce de sable mouvant pourrait s'y former, tout simplement parce que le chemin était trop humide pour permettre le passage de centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas le cas d'Israël. Israël passe, non seulement Dieu sépare les eaux, mais il solidifie aussi le sol où ils vont passer. Dieu fortifie son peuple. Dieu assure le chemin où tu dois passer. Dieu assure l'endroit où tu dois déambuler. Pensez, dans le Nouveau Testament, Dieu va le faire aussi. Lorsque Pierre va marcher sur les eaux, ils sont dans la barque, Jésus marche plus loin où il apparaît en plein milieu de la nuit. Et Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne et je vais marcher jusqu'à toi. » C'est Jésus qui est là, il dit, « Oui, viens, c'est moi. » Alors Pierre se lève de la barque, sort et commence à marcher. Et l'eau est solidifiée sous ses pas. Il assure le pas de ses enfants. Assurément, Pierre, à un moment donné, se met à douter et il sombre. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont loin de la barque. Alors ils doivent soit marcher jusqu'à la berge ou se rendre jusqu'à la berge, ou retourner à la barque. La Bible nous dit que Jésus va tendre la main, va repêcher Pierre. Et avec Pierre, ils vont donc revenir vers la barque ou marcher jusqu'à la berge. Mais il solidifie une fois de plus l'eau sous les pas de Pierre. Dieu veut faire la même chose avec nous. Dans les milieux incertains dans lesquels il nous amène parfois à passer, et comme on disait tout à l'heure, pour apprendre à dépendre de lui, ben, la manifestation de sa gloire va rendre le terrain incertain solide sous nos pas. On s'en rendra peut-être pas compte au départ. Peut-être qu'au départ, on va mettre le pied et c'est de façon hasardeuse, mais on va voir la solidité de cet endroit où Dieu nous place, tout simplement en multipliant un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et tout d'un coup, on va être rendu en plein milieu de la mer, voire de l'autre côté, et on aura traversé. Lorsque Jésus va dire à ses disciples à une autre occasion, « Passons de l'autre bord », Jésus est en train de dire, « Peu importe comment vous allez passer, mais vous allez passer de l'autre bord. » Alors ce matin, je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas quelles sont les circonstances de ta vie aujourd'hui, mais sache une chose, si effectivement Jésus est le Seigneur de ta vie, il va viser à ce qu'il y ait une séparation dans ta vie entre le péché et toi. Il va chercher, il va te pousser pour la sanctification. Dieu va aussi se révéler à toi. Il va éclairer ton sentier. Dieu va aussi se manifester en contrôlant les circonstances autour de toi et en rendant visible sa toute-puissance. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous, on pourrait élever des témoignages sur l'intervention de Dieu à une occasion ou à une autre dans notre existence. Dieu va aussi nous conduire. Dieu va ouvrir le chemin et va nous précéder dans ce chemin pour que nous puissions marcher à sa suite. Et Dieu va fortifier que ce soit nos pieds ou les terrains sur lesquels nous devons passer. Certains pensent que la foi, c'est un chemin périlleux. Aucunement. La foi, c'est un chemin sûr. On fait le pas, parfois à l'aveuglette, mais c'est un pas qu'on sait assuré parce que Dieu nous a dit de mettre un pas devant l'autre. Parfois, on voyage un peu comme Abraham, on va dans un endroit où on ne sait pas quel est son nom, on ne sait pas la direction vers laquelle on va aller, on ne connaît pas le territoire en soi, mais on y va parce que Dieu nous a dit d'y aller. Et l'obéissance, dans un tel cas, fait partie de notre marche chrétienne. Rapidement, les six points que je voulais mentionner sur l'Égypte, mais comme ce sont des faux pas de l'Égypte, on ira assez rapidement. Dieu va se placer en rempart infranchissable entre les deux camps. La nuée va se placer entre le camp d'Israël et le camp d'Égypte. Donc, l'Égypte est exclue de la présence de Dieu. Le péché doit être exclu de la présence de Dieu. Et voilà pourquoi la sanctification est importante. La Bible nous dit que d'un côté, Dieu est clair avec la nuée, de l'autre, c'est ténébreux et opaque. Lorsque nous sommes dans le camp ennemi de Dieu, il est impossible d'avoir accès à la pensée de Dieu. Ce n'est qu'en étant enfant de Dieu, qu'en étant membre du peuple de Dieu, que nous avons accès à la pensée de Dieu. On voit que Dieu va semer le désordre dans le camp des Égyptiens. Dieu va mener donc le combat contre notre ennemi. Combien de fois dans la parole de Dieu on a ces exemples, notamment avec Josaphat, où Dieu lui dit, malgré la multitude qui s'est levée contre toi, va dans tel endroit, va dans ce point élevé avec le peuple, marche avec les chantres, les lévites qui me célèbrent, et allez jusqu'à ce point culminant, et vous allez voir aujourd'hui la main de l'Éternel. Et on voit comment Dieu a combattu, que ce soit contre ses ennemis à l'époque de Josaphat, que ce soit contre Madian à l'époque de Gédéon, et ici, dans ce passage de la traversée de la mer Rouge, où Dieu va faire dérouter les chars égyptiens en défaisant les roues des chars. On nous dit par la suite que Dieu va ramener le cours normal de la mer. Donc Dieu peut, après être intervenu, laisser aussi libre cours aux circonstances naturelles pour qu'elles servent à sa cause. Entêtement par la suite, irréfléchi, présomptueux des ennemis, lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, on va effectivement faire ses bravades, on va effectivement avoir des déplacements hasardeux. Israël voyait ce chemin s'ouvrir devant eux. Israël recevait instruction de Dieu. L'Égypte ne l'avait pas et ils se sont engouffrés dans un chemin qu'ils croyaient bon pour eux, mais dans lequel ils ont couru à leur perte. Et enfin, le sol et la mer avalent l'armée égyptienne. Et on le voit donc dans le verset du jour. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Dieu non seulement peut solidifier les contextes environnants, mais aussi peut les fragiliser selon son bon vouloir et selon le plan qu'il a destiné ou qu'il a dessiné. Et ici, effectivement, Israël, il leur avait été promis qu'il ne reverrait plus jamais ses ennemis les attaquer. Et ça a été le cas, Dieu ayant fragilisé, englouti les Égyptiens à travers le sol qui s'est ouvert sous eux et la mer qui les a donc noyés. Voilà ce que nous avions pour ce matin. Dieu sépare, Dieu sanctifie, Dieu se révèle, Dieu contrôle les circonstances, Dieu conduit et Dieu fortifie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce rappel de ce que implique marcher à ta suite, donc recevoir de toi instruction, bien entendu, alors que tu te révèles à ton peuple, voir ton intervention sur les circonstances qui nous échappent autour de nous, les circonstances, les contextes sur lesquels nous n'avons pas contrôle. Nous savons que toi, tu dépasses tout cela et que tu as contrôle sur l'ensemble de l'univers. Nous savons que tu nous conduis et de surcroît à cela que tu fortifies non seulement nos pieds, non seulement nos pas, mais tu fortifies aussi le terrain sur lequel nous avançons. Mais tout cela vient du fait que tu nous sépares du péché et que tu veuilles, tu désires que nous marchions dans une vie de sanctification. Alors je prie spécifiquement pour un frère, une sœur, j'ai particulièrement un jeune homme en pensée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu parles distinctement à ces personnes et à ce jeune homme en particulier, afin, Seigneur, qu'ils prennent les uns et les autres décision de mener une vie intègre devant toi, une vie, Seigneur, sanctifiée devant toi. Seigneur, c'est beau de proclamer que tu es notre Seigneur, mais nous ne pouvons pas faire cette proclamation et vivre d'une façon contraire aux préceptes de ta parole. Alors je prie, Seigneur, qu'il y ait cette décision ferme dans la vie de mes frères, de mes sœurs et de ce jeune homme en particulier. Je prie, Seigneur, qu'il y ait cette décision de régler sa vie, d'arranger sa vie et de mener une vie, Seigneur, qui t'est agréable, que tu peux approuver et sur lequel, Seigneur, tu peux bâtir. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tout ce que tu fais est parfait, que ton temps est parfait, que ta délivrance est parfaite, et que ton amour, Seigneur, est incommensurable. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, voilà ce qui termine notre semaine au niveau des bénédictions matinales. On se retrouve ce soir, 19h. Pour notre temps de prière et d'intercession. Donc, je serai depuis la maison. Je vous invite donc à être là avec nous, moi et Daphné, ce soir à 19h pour un temps de prière. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve sinon dimanche matin pour l'assemblée ou mardi prochain pour la première bénédiction matinale de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.